Merci d'avoir ramené Jean-Daniel parmi nous pour ces quelques jours, Seigneur. Utilise-le en commençant ce matin. Que ton esprit soit libre de parler par sa bouche et que les paroles de l'écriture qu'il cite trouvent une place chez moi et chez nous tous. Garde-le et bénis-le. Amen.
Merci Brian. Bonjour à tous. Vraiment, je suis vraiment dans la joie ce matin de venir partager ce moment de culte avec vous. C'est toujours une grâce, une bénédiction de pouvoir partager la parole de Dieu avec mes frères et sœurs de l'église de Prévesaint. C'est vraiment l'église dans laquelle je me suis construit, dans laquelle le Seigneur m'a révélé la mission pour laquelle il m'avait préparé, moi, mon épouse et les enfants. Et c'est vraiment, vraiment avec beaucoup de joie et de bonheur que je suis parmi vous ce matin. D'autant plus qu'il fait 40 degrés à Ouaga. Donc vraiment, venir un peu de fraîcheur, c'est très agréable. J'aimerais vraiment vous transmettre toutes les salutations fraternelles et pleines d'amour de la part de Pascaline et des enfants, Coraline, Ilian, Emmanuel, qui vont très bien et qui sont actuellement en train de partager un culte avec la famille de Pascaline à Ouaga. Les salutations également de l'église de Zignaré, dans laquelle nous allons de temps en temps, avec le pasteur Mathurin que connaît Raymond, et certainement aussi Johanna, si elle s'en rappelle. Et puis également la salutation de tous les élèves du collège Martin Luther King. Donc brièvement, vous donner quelques petits éléments comme ça ponctuels, une sorte de petit bilan rapide. Le collège est ouvert il y a 3 ans maintenant. Et après 3 ans de fonctionnement, on a ouvert 3 classes. Chaque année, on ne recrute qu'en 6e, une 40aine d'élèves grand maximum. Et aujourd'hui, le collège compte 95 élèves. En 6e, 5e, 4e. Ce sont des élèves qui se sont construits petit à petit et qui ont été recrutés sur tests et entretiens. Et la plupart de ces élèves sont vraiment viennent de tous les horizons. Il y a une véritable mixité sociale et religieuse. On recrute des chrétiens, mais également des musulmans et des musulmans, des chrétiens nés de nouveau, des catholiques, c'est un peu très mélangé, des animistes. Et puis, on a les 3 classes sociales du pays. C'est-à-dire qu'on a une partie qui vient de Ouaga, qui loge à l'internat. Donc, c'est des classes sociales un peu aisées. Il y a une partie qui vient de Zignaré en externat, qui correspond aux classes moyennes, les petits fonctionnaires. Et puis, on a également une bonne partie qui vient des villages les plus profonds de la région, des parents de paysans qui n'auraient jamais eu la chance dans leur vie de pouvoir entrevoir un espoir autre que celui de travailler la terre, dans des conditions bien souvent difficiles. Et le mélange qui se fait, ça donne vraiment une osmose, une homogénéité qui est absolument incroyable. C'est le Saint-Esprit qui travaille vraiment dans cette école, dans ce collège, que vous avez soutenu à plusieurs reprises. Et véritablement, on voit aujourd'hui les fruits des semences qui ont été faites dans cette école depuis 3 ans. Le moment le plus fort pour moi, c'était la semaine dernière. À titre d'exemple, maintenant, tous les 15 jours, nous avons un culte au collège. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout engagé dans une église avec Pascaline à l'heure actuelle, parce qu'on se rend compte que le collège à lui tout seul est déjà une église. Nous portons la responsabilité spirituelle des enfants, du personnel. Et véritablement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de prendre son essor, son envol. Et on a 25 personnes qui travaillent au niveau du collège. 25 familles qui reçoivent un salaire, qui peuvent véritablement vivre sur la région, avec tous les commerçants, tout ce que ça implique. Et c'est vraiment une grâce du Seigneur de voir que quand on fait un pas de foi avec lui, qu'est-ce que tu as entre les mains ? Sème. Le reste, c'est moi qui vais arroser, qui vais faire pousser. On n'est jamais seul. Au départ, on pense qu'on est seul. Satan veut décourager. Mais bien souvent, dès que vous avez fait ce pas de foi, Jésus tend sa main et met sur votre route des personnes, des hommes, des femmes, qui vont vous soutenir dans la prière, qui vont vous porter, qui vont ouvrir des portes, vous apporter des connaissances que vous n'auriez jamais eu la chance de pouvoir avoir dans une vie normale. Et ben en fait, Jésus fait d'une vie ordinaire une vie extraordinaire. Souvent, on se plaint du naturel. Suivez Jésus. Avec Jésus, c'est que du surnaturel. Le surnaturel de Dieu, c'est quelque chose qui mérite la peine d'être vécu. Et depuis que je suis ici, en discutant simplement avec Louise, quand je vois les pas de foi qu'elle a fait et que j'en vois sa joie de vivre, la paix qu'elle a avec le Seigneur parce qu'elle a pris la bonne décision, je me dis, mais Seigneur est à l'œuvre ici dans le pays de Gex, il y a l'œuvre dans votre église. Il est à l'œuvre en France et il veut travailler. Il n'a besoin que de bras, de mains, de pieds, d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui disent « on est prêt à te servir ». J'ai beaucoup aimé quand Brian a dit « il ne cherche pas des... » Non, ce n'était pas Brian, c'était... ça y est, les prénoms. Pierrick. Non, Pierrick. Pierrick qui a dit « on n'est pas des super-héros ». Mais c'est justement ça que Jésus cherche. Quand tu n'es pas un super-héros, tu te sens tout petit, tout faible, inutile à la société, Dieu te dit « tu es qualifié ». Je peux passer par toi pour t'utiliser, parce que tu ne vas pas t'appuyer sur tes compétences, tu ne vas pas t'appuyer sur tes qualités, tu ne vas pas t'appuyer sur tes facilités, mais tu vas t'appuyer sur mon Saint-Esprit. Et c'est moi qui vais pouvoir changer ton cœur, travailler à travers toi, te modeler avec cette image du potier, pour pouvoir t'utiliser, non pas pour ta gloire, mais pour ma gloire. Et quand les gens vont te voir, ils t'ont connu avant, il y a eu un avant, il y a un après. Il y a l'ancienne créature qui est morte, qui est enterrée avec Jésus, et il y a la nouvelle créature, le nouvel homme spirituel, qui est capable d'accomplir des miracles par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ce qu'il a fait avec moi, ce qu'il a fait avec d'autres, il peut le faire avec toi, et non seulement il peut, mais il veut le faire avec toi. Tu es ses bras, tu es ses mains. Dieu est un esprit. Il a mis une loi spirituelle, une loi sur la terre. Il ne peut passer pour s'exprimer que par des êtres humains. Ou tu acceptes, ou tu refuses. C'est pas plus compliqué que ça. Mais quelle joie et quel bonheur, comme on l'a dit dans le premier chant, de le servir. Quand vous savez que vous êtes dans le plan de Dieu, les choses changent. Les choses s'illuminent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats, que ce n'est pas dur. Il faut plier les genoux. Il faut apprendre le combat spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir s'entourer d'une équipe fidèle. Et au niveau du collège, toutes les personnes qui côtoient les enfants à l'internat sont tous des chrétiens nés de nouveau, qui ont à cœur la jeunesse, qui ont à cœur les enfants, pour préparer une mission, préparer une nouvelle génération, préparer de futurs leaders. C'est de ça que manque l'Afrique. Ce n'est pas les compétences, on les a. Ce n'est pas la jeunesse, elle est là. Mais des gens nés de nouveau, avec une mentalité changée, transformée, alignée sur la parole de Dieu, pour penser non pas à leurs intérêts personnels, mais étendre le royaume de Dieu. Et le collège Martin Luther King, en deux mots, c'est quoi? Ben, c'est une grande famille à qui on donne l'excellence académique, mais dans la crainte de Dieu, et dans laquelle on vit comme une famille. Tout dernièrement, je ne vois même plus mes enfants le week-end. Même Emmanuel, la toute petite, qui a 2 ans et demi, ils veulent aller dormir avec les internes dans le foyer des filles, dans le foyer des garçons. Ils passent quasiment tout leur week-end là-bas. Ils ont été pris en charge par les élèves qui les prennent comme des petits frères, des petites sœurs et ont grandi ensemble. Et je parlais du culte dimanche dernier. C'était pour moi un culte fort, vraiment fort, et je regrette de ne pas avoir enregistré. Je pense que maintenant, je vais enregistrer tous nos cultes. On y va, on fait un culte tous les 15 jours. On invite de temps en temps des frères et sœurs de l'extérieur. Souvent, c'est moi également qui apporte la parole. Et puis dimanche dernier, avec Pascaline, on s'est dit, mais on va, comme tu dois partir, tu es un peu fatigué, tout petit peu, mais Jésus renouvelle, on va leur faire faire le culte. On ne les prévient pas, on fait la louange, on a un groupe de louanges comme ça. En fait, tout le monde participe dans les élèves. Hein. On est 60 au culte, mais il n'y a personne qui est assis sur une chaise et qui fait rien. Chacun a son rôle. On partage la scène, on a des chorales de jeunes filles, chorales de garçons, tout le monde chante, on a un peu de la musique avec des djembés, c'est très joyeux. Et on a tous les enfants, musulmans même, participent. Et on n'a plus que 2 élèves qui ne sont pas vraiment convertis sur les 60 qui sont à l'internat. Leur vie a changé. Mais moi, je ne savais pas. On observe, on espère, on prie. Et dimanche, on a fait un culte de témoignage. Et vous savez, moi, la première fois que j'ai témoigné, je crois que c'est ici. Quand j'ai demandé à être membre, on dit, il faut apporter ton témoignage. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et je ne m'étais jamais rendu compte à quel point c'était important de témoigner ce que Jésus fait dans ta vie. Parce que ce que tu vas raconter, tu as l'impression que c'est inutile, que c'est peut-être petit, mais ça va encourager un frère ou une sœur. Ça va redonner du moral à quelqu'un qui avait le cœur brisé. Ça va rebooster la personne qui était découragée dans sa foi et donner envie de se relever et de marcher à nouveau avec Jésus. Et ces enfants, on s'est dit que Pascaline, bon, ben, je vais présenter un petit texte et puis je vais les appeler à témoigner. Et au fond de mon cœur, je me disais, Jean-Daniel, il y a de grandes chances qu'ils vont être impressionnés. Ils ne vont pas oser, donc tu vas les piocher au hasard en comptant sur le Saint-Esprit pour faire le bon choix. À peine j'ai terminé le texte que j'avais lu avec eux, je demande qui veut témoigner. La plus petite fille de 6e lève la main Elle dit, moi, je veux commencer. Et on a eu 1h30 de témoignage. J'ai dû couper le culte. Plus de 20 enfants, 20 élèves ont témoigné de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Avec Pascaline, on s'était toujours demandé, on voit des changements. Ça peut être une apparence, on n'en sait rien. Mais le fond, le cœur, qu'est-ce qui se passe dedans? On sait ce qu'on sème. On sait ce que l'on prie. On sait que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais quand vous entendez la bouche d'un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 17 ans, dire ce que Jésus a fait dans sa vie, ça change tout. Et surtout quand vous écoutez des témoignages et que vous voyez que ce que vous semez, en fait, ça porte du fruit. Quand je vois un enfant catholique qui me dit « Mais moi, depuis que je suis ici, j'ai compris l'importance de la parole de Dieu, l'importance de me nourrir spirituellement tous les jours, de lire la parole et de la proclamer, de prier sur ma vie. » Et qui nous dit, nous à l'église, on nous disait que la parole de Dieu, ce n'était pas important. Là, c'était une histoire de prêtre. Ce qu'il fallait faire, c'est venir, suivre la liturgie, etc. Mais il a compris. Et il a vu des changements et il a mis en application. Quand je vois un élève musulman, je ne savais pas trop s'il avait fait le pas ou pas, qui nous dit, oh, voilà, ça fait 6 mois que j'ai la conviction dans le cœur que je dois dire à ma famille que je suis converti. Mais j'avais peur. Je ne sais pas comment ma famille va réagir. Et il nous dit, il y a trois semaines, je suis rentré en week-end. Et j'ai dit à ma maman, écoute maman, maintenant, moi j'ai vraiment fait un choix. J'ai décidé de suivre Christ. Il nous dit, ma maman m'a dit, tu quittes la cour, je ne veux plus te voir. Un enfant de 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que dans le monde musulman, dès que vous quittez la religion musulmane, il y a une énorme pression familiale sur vous. Vous êtes rejeté de la société. Rejeté de vos familles, on vous coupe les vivres, on vous coupe, j'allais dire, tout ce qui pourrait vous permettre de vous raccrocher dans le naturel, et on vous fait perdre tous vos repères. Mais ce jeune a dit, c'est pas grave. Je suis parti, j'ai dit à Jésus, je continue à prier pour ma famille et à les appeler à naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Et je sais que mon Dieu est puissant et fidèle, en son temps, il le fera. Et il me dit, je sors dans la rue, je retourne à Zignaré. Et je tombe sur un ami de ma famille qui me dit « Mais qu'est-ce que tu deviens ?» Et je lui explique, mais c'est pas grave. À chaque moment où tu auras un week-end, tu peux venir loger chez nous. On t'accueille, mais avec un cœur grand comme ça et avec amour. Et dit, vous voyez, Jésus, en fait, répond. Jésus n'a jamais dit que ça coûterait rien de le suivre. Non, ça coûte. Regardez Paul, combien de fois il était arrêté, combien de fois il était battu. Ça coûte de suivre Christ. Mais quel bonheur qu'on voyait un enfant qui a fait un choix décisif dans sa vie, qui tient ferme malgré l'opposition. Et franchement, je ne suis pas sûr que ça nous était arrivé ici, dans les pays occidentaux. Si on vous enlevait tout ce à quoi vous pouvez vous raccrocher dans le matériel, si on allait continuer à suivre Jésus, de la même manière que ce gamin. Et un troisième qui se lève, qu'on ne voulait même pas prendre. Je pense que Johanna et Raymond doivent se rappeler de Gitenga, qui est l'ami de mon beau-frère Lingri, qui est le deuxième diacre de l'église, un jeune, qui m'avait dit, j'ai un gars dans mon village, il est instituteur. Ce jeune-là, il est brillant. Mais il traîne partout au marché, son père l'a rejeté, il vit de mendicité, il vole un petit peu, il ne fait rien à l'école, il s'en sort. Il est parti passer le CEP, en fin de CM2, j'ai dû lui payer une paire de tapettes, il avait même pas, moi, pardon, une paire de tapettes ici, c'est pas la même chose que chez nous, entre guillemets, et cette actualité. Les tapettes là-bas, c'est les tongs. Donc, Gitenga, le frère Gitenga dit, je lui ai acheté des tongs. Et puis, il a pu aller passer son CEP qu'il a eu brillamment. Mais il était un petit peu âgé. Donc, il me dit, allez, fais un effort, donne-lui une chance. J'ai hésité avec Pascaline, on a prié, c'était il y a 3 ans. Il m'a dit, prends-le. Ce jeune, je savais qu'il était converti, on l'a baptisé déjà. Il est venu témoigner, mais des enfants qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole au village. Il faut imaginer, quand ils arrivent en 6e, quand tu viens du village, tu ne peux pas regarder un adulte dans les yeux. Si un adulte parle, tu fermes ta bouche, tu n'as pas droit à la parole. Et on leur a appris quelle était leur identité en Christ. Donc Brillant a dit, je suis un pauvre petit chrétien, je dis oui, mais ce n'est pas arrivé. C'est bon, ça c'est avant la conversion. Mais quand on se convertit et qu'on est de nouveau dans le royaume de Dieu, tu n'es plus un pauvre petit chrétien. La Bible te dit, tu es un roi et un sacrificateur. Un roi est fait pour dominer, pour régner dans un domaine d'activité dans ta vie. Pour véritablement montrer la gloire de Dieu sur terre, pour étendre le royaume de Dieu, et pas vivre de manière étriquée en ayant toujours peur du regard des autres. Un roi connaît son identité. Et c'est vrai que l'on devient roi parce que nous sommes réconciliés par le sang de Jésus avec Dieu. Et c'est par le sang de Christ que nous naissons de nouveau dans le royaume de Dieu et que nous devenons rois et sacrificateurs. Il n'y a plus de temple à Jérusalem pour aller adorer et faire des sacrifices. À l'époque, c'était le sang des boucs et des taureaux qui effaçait les péchés. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus versé une fois pour toutes pour nous. Et le temple, mon frère, ma sœur, c'est toi. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu n'es pas n'importe qui. Hein. Quand je regarde maintenant, quand j'ai vu mes enfants à l'école pour la première fois en sixième, j'aurais dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Tu viens du village. Les gens te voient petit, te voient pauvre. Moi, je te vois grand. La Bible a dit, tu es un roi. Tu es un prince dans cette école. Et on les éduque comme ça depuis la sixième. On leur donne les promesses de la parole de Dieu. On leur montre quelle est la vision de Dieu pour la vie des hommes sur terre. Nous ne sommes pas nés simplement pour vivre et mourir et venir à l'église le dimanche. Nous sommes nés pour témoigner au quotidien de notre vie de l'amour de Christ Jésus. La Bible dit nous sommes des ambassadeurs. C'est fort. Nous avons une lettre de mission. Combien l'ont oublié ça? Cette lettre de mission, c'est de témoigner l'amour de Jésus-Christ concrètement dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas de lutter contre la chair et le sang. Combien de fois, souvent, on vide même l'Église de sa substance, on perd son temps à s'entre-déchirer entre nous. Or que Jésus dit, attention, la chair et le sang, c'est Satan. C'est lui qui vous monte les uns contre les autres. C'est le voleur, celui qui déchire, celui qui vole. Et il nous dit, attention, ce n'est pas contre ça que vous devez lutter. Unissez-vous par le Saint-Esprit dans la prière. Vous êtes attaqués. Autour de vous, il y a un monde spirituel plus vrai que le monde réel. Mais on n'en a pas conscience, et encore moins quand on est ici en Occident. Ce monde spirituel est réel. Moi, quand Brian me parlait de combat spirituel, bon, quand je le connaissais avant, d'accord, c'est un combat spirituel, j'entends ça depuis tout petit, mais concrètement, c'est quoi? Mais sachez que quand vous êtes un danger pour Satan, quand vous commencez à vous lever, quand vous commencez à agir pour Dieu, il va vous bombarder, il va vous attaquer. Et si vous ne réagissez pas, comment vous allez résister? Comment vous allez tenir ferme dans la tempête? D'où l'importance de s'enraciner chaque jour dans la parole. D'où l'importance d'utiliser non pas les armes naturelles, mais les armes spirituelles. Mais c'est quoi des armes spirituelles? Elles sont dans la Bible. Mets le casque du salut chaque jour. Chaque matin, on le fait avec les enfants dans la voiture. Les enfants, Emmanuel et Coraline et Elian prient chaque jour. Je mets le casque du salut pour garder mes pensées en Christ Jésus. Parce que sinon, la guerre des pensées, là, c'est ça qui nous fait perdre du terrain ici. Je mets la cuirasse de la justice pour garder mon cœur, le siège de la vie. La cuirasse protège le cœur. Je mets la ceinture de la vérité. C'est une décision. C'est pas quelqu'un qui met pour toi. C'est toi-même qui te revêt, pas Jésus. Il te donne les armes et il te dit maintenant, revêt-toi. Tu as tout. La ceinture de la vérité pour marcher dans la vérité avec mes frères, avec mes sœurs. Je mets les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Mais pour faire quoi? Pour faire vivre comme tu veux? Pour être un bon témoin de ton amour sur mon lieu de travail, dans ma famille, auprès des gens qui comptent pour moi. Et puis tu saisis le bouclier de la foi. Le bouclier est une arme défensive. Souvent, Satan nous envoie des flèches. On oublie le bouclier de la foi pour les bloquer. Ça vous attaque, ça vous blesse, vous vous aigrissez et vous oubliez complètement Jésus. Et vous tombez dans le charnel, dans le chrétien charnel qui se laisse dominer par son âme, ses sentiments. Le bouclier de la foi, c'est quoi? Je connais la parole de Dieu, j'agis comme Jésus. Dis à ses pains de se transformer, à ses pierres de se transformer en pain. Jésus fait quoi? Il prend le bouclier de la foi, il connaît la parole de Dieu et il proclame. Non, je refuse. La parole dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'importance de la parole, de la connaître, la proclamer. C'est ça votre bouclier dans la vie. Ne cherchez pas d'appui sur les frères et les sœurs. Ne cherchez pas ce qu'on prie pour vous. Vous-même, priez pour vous-même et utilisez les armes que Dieu vous a données. C'est une décision. Personne ne le fera à votre place. Et puis enfin, l'épée de la parole de Dieu, qui est plus aiguisée qu'une épée à double tranchant, capable de séparer la jointure des moelles et l'âme de l'esprit. C'est ça dont on a besoin dans les églises, bien souvent. Seigneur, utilise l'épée de ton esprit pour trancher ce qui est de la chair et ce qui est de ton esprit. Ce qui est de toi et de ce qui est de Satan. Et que ton esprit nous en conduise maintenant véritablement dans la mission que tu as prévue pour nous sur terre. Et vous voyez, c'est des exemples concrets qu'on enseigne à nos enfants. Les chrétiens ont besoin de choses concrètes. Ils ont besoin de vivre des miracles. Un miracle, ce n'est pas simplement quelque chose de grandiose. C'est un miracle, c'est au quotidien. Tu te lèves le matin, remercie Jésus. Je suis là, je respire. Mais c'est un cadeau. Ce n'est pas une obligation que tu sois encore vivant au petit matin. Tu peux déjeuner à ta faim. Tu peux t'habiller, te vêtir. Depuis que je suis arrivé en France, ça fait 3 jours, j'écoute les médias, la radio, etc. Mais tout est négatif. Tout est négatif. Satan a pris le contrôle des médias et véritablement, tout est négatif alors qu'on a la parole de Dieu où il y a toutes les promesses et toutes les réponses aux soucis du monde dans lequel on vit. Est-ce qu'on est des boussoles pour ces gens-là? Est-ce qu'on sait leur des panneaux indicateurs? Est-ce qu'on sait leur indiquer Jésus? Pas toujours, parce que nous-mêmes, on n'est pas convaincus et on n'est pas convaincants. Si tu n'as pas de témoignage, comment tu vas toucher les gens? Si tu n'as rien à dire, comment tu vas les toucher? Samedi, on a passé peut-être 1h30 à discuter avec Louise. Hier encore, dans la voiture, Dieu fait des choses incroyables. J'ai un ami chrétien qui m'invite à Saint-Sergue à assister à l'inauguration d'une salle pour une petite institution chrétienne pour des handicapés, des gens qui sont en difficulté dans la vie. Et puis, j'en parlais. Et le soir même, elle m'appelle et me dit « Mais papa m'a dit que tu montes à Saint-Sergue aussi ?» Pourquoi ? Parce que moi aussi, je vais là-bas, je vais chanter. On s'est retrouvés hier soir là-bas à passer une soirée exceptionnelle. Et on a beaucoup pu échanger dans la voiture. Et je me rends compte que non seulement moi, j'arrive à l'encourager avec ce qu'on vit là-bas, mais elle m'a encouragé encore plus avec ce qui se passe ici en France. Il faut des jeunes qui se lèvent, qui n'aient pas peur de suivre Jésus, qui n'aient pas peur de s'engager et de dire « Je suis prêt à quitter un emploi parce que Dieu me demande de faire. » Et qui arrêtent de raisonner. Le problème de l'Église en France, je suis désolé, on veut être encore les descendants des philosophes des Lumières. La Bible dit « oui, mais ». La Bible dit, attention, il faut contextualiser. La Bible dit « ah, mais ça, est-ce que ce n'était pas pour leur temps ?» Et aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des raisonneurs. Toute personne qui veut raisonner avec Dieu ne connaîtra jamais Dieu réellement. Dieu te dit « je parle ». Obéis. Je parle, obéis. Et ça, on n'a pas l'habitude. Et quand on te demande d'obéir, tout de suite, notre rationalisme occidental veut passer à la moulinette. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu? Est-ce que c'est bien la voix de Dieu? Est-ce que Dieu peut faire? Rassure-toi, il y a 2 options pour voir ça. Si ça te paraît fou, sache que c'est Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible, pas du possible. Pourquoi il va t'utiliser pour faire quelque chose qui est possible? Tu vas dire qu'au bout d'un moment, c'est moi? C'est mes efforts. Si jamais Louise a quitté son poste d'institutrice, payée par l'État et donc fonctionnaire en France, c'est quelque chose. Ah, être fonctionnaire dans le monde par les temps qui courent, démissionner à la poste de fonctionnaire, ce n'est pas n'importe qui fait ça. Mais elle sait pourquoi elle a fait ça. Et je suis persuadé que des gens lui disent « tu es folle ». Quand on est parti en Afrique, les gens nous ont dit « est-ce que vous êtes sûr d'avoir suffisamment prié ?» Moi, j'avais une conviction, Dieu m'a dit, c'est le temps, pars. Quand Pascaline, mon épouse, m'a dit, c'est vrai, moi aussi j'ai la conviction, tout ce que les gens pouvaient dire, c'était plus important pour moi. Et le seul, après ça, je m'excuse, c'était pour mon bien que vous vouliez que je reste, c'est Raymond qui m'a dit, tu verras, si c'est la voix de Dieu, fonce. Il va t'emmener à l'extrême limite de tes finances, sur le terrain de tennis, je ne sais pas si tu te rappelles. N'aie pas peur, tu verras, au dernier moment, Dieu va ouvrir les portes, et tu pourras le glorifier dans ce que tu fais là-bas. Et aujourd'hui, le ministère, c'est vraiment l'école. Et de voir ces jeunes se lever, de voir leur vie transformée, de les revoir, en fait, leur témoignage, c'est d'une fraîcheur. C'est la Bible dit, je mets en application et je raconte mes résultats. C'est pour ça que souvent on est aigris, les chrétiens. Souvent on prie, pas vraiment de la bonne manière parce qu'on ne connaît pas comment il faut faire. Il y a des principes dans la Bible, on ne les connaît pas. Dieu ne répond pas comme on veut. Et donc on s'aigrit et on dit que Dieu ne m'aime plus ou Dieu m'a oublié, etc. Non, c'est faux. Dieu vous aime. Vous êtes important à ses yeux. Il n'y a personne dans cette église qui n'a pas un rôle à jouer ici à Prefsaint. Chacun a sa place. C'est ça le problème. Est-ce que chacun est à sa place dans l'église? Souvent, on veut peut-être être devant. Oui, mais si Dieu ne t'a pas appelé en tant que prédicateur, pourquoi tu fais des prédications? Tu prends la place de quelqu'un d'autre. Si tu veux aller à la louange, toi tu as envie de louer Dieu. Fais-le à la maison. Si ce n'est pas ton don dans l'église, ne prends pas la place de quelqu'un qui doit le faire. Imaginez que le nez, on le met à la place du pouce. Ça va être compliqué pour travailler dans la vide. Hein. Respirer avec un nez comme ça, on n'est pas des éléphants encore, ça serait très compliqué. Et moi, j'aimerais vraiment vous témoigner de ce qui se passe dans cette école, parce que c'est absolument phénoménal. Et ces enfants, si vous leur demandez aujourd'hui ce qu'ils veulent faire, ils vont vous dire, moi je veux faire maintenant de la politique, mais complètement changer les choses. Il faut que des chrétiens aillent en politique. On comprie, qu'on se regroupe, et qu'on prie pour Dieu, pour le peuple, pardon, et qu'on mette en application la parole de Dieu dans les principes de gestion du pays. Quand vous écoutez vos politiques actuellement, ils vous disent quoi ? La crise est derrière nous, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Nous allons réduire les déficits publics. Alors je ne suis pas un prophète de mauvais augure, mais on vous ment. La crise n'en est qu'au début. La crise va s'intensifier. Les choses auxquelles on s'était habitué en Occident vont disparaître. Et Dieu va petit à petit faire tomber les uns après les autres tous les piliers auxquels on s'accrochait. Et seuls ceux qui auront saisi Christ, qui auront compris qui est Dieu, qui ne s'attachent pas à Dieu pour les bénédictions, mais véritablement pour ce qu'il est et ce qu'il fait, seulement eux tiendront ferme dans cette tempête. La tempête, on en est à l'aube. Et l'année 2013 pourrait bien être l'année cruciale. Regardez les médias. Hier, moi ce week-end, Kurt Bullman en parlait hier, le SMI a battu un record. La bourse de New York a battu un record depuis 2007, jamais été aussi haut. On imprime des billets de monnaie, de monopoly, qu'on investit en masse dans les bourses pour faire monter artificiellement, vous faire croire que tout va bien, alors que les déficits se creusent et qu'un jour il va falloir payer l'addition et qu'on n'aura pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fera, nous, les chrétiens, à ce moment-là? C'est là qu'on doit se remettre en question. Il faut arrêter de gérer les églises avec les principes du monde. On ne peut pas. Il faut apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. La logique humaine et le rationalisme humain ne peuvent pas nous sortir de ces situations-là. Et ça, l'Église en Europe doit se préparer à ça. Si on veut gérer une Église comme une entreprise, comme un bon petit père de famille, ça ne marchera pas avec Jésus. Ça ne marchera pas. Je préfère vous le dire très clairement. Ça sera dur, très dur. Mais la parole nous a donné des principes bibliques dans tous les secteurs de notre vie. Est-on prêt à reprendre la parole, à revenir à la base, à refaire des enseignements concrets, précis sur la vie quotidienne des gens? Ça peut aller sur la gestion d'un budget. La gestion de l'argent, on n'en parle pas dans l'Église. C'est rare. Kurt Bullman, que j'ai rencontré, que j'ai présenté à Louise, fait des enseignements sur la Bible, bibliquement, comment Dieu demande qu'on gère l'argent et les finances. Dans une église, dans ton foyer, dans une entreprise. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai découvert ça à Ouagadougou. Il est venu enseigner là-bas. Et nous, on a ça ici, on ne prend pas. Alors que pourtant, une région où il y a beaucoup d'argent qui circule. Ça serait quelque chose qui pourrait vous faire du bien, en tout cas. Et vraiment, ces principes bibliques des finances, dans la Bible, il y a 200 versets qui parlent du salut. 200. Il y a 2400 versets qui parlent de la gestion de l'argent, des richesses et des biens matériels. Pourquoi ? Parce que Dieu savait très bien que c'était un sacré problème pour les hommes et les femmes d'avoir quelque chose entre les mains et de ne pas savoir quoi en faire. Et c'est vite fait de servir Mammon et pas Dieu. Mammon et pas Dieu. Mais le petit texte, je ne veux même pas le lire du coup, mais c'est celui que j'avais lu avec mes enfants. Vous le connaissez, vous le lirez à la maison. C'est dans Marc 5, à partir du verset 25 au verset 34. Je ne vais pas le lire, mais je vais simplement le résumer et vous donner un mot à retenir pour aujourd'hui. C'est en fait la femme à la perte de sang. Vous connaissez tous ce texte. Une femme qui est malade depuis 12 ans. Tout son bien, elle l'a dépensé pour aller voir des médecins. Certainement qu'elle était voir des charlatans, qu'elle a consulté ses amis. Et rien. Sa maladie continue. Sa maladie va en s'empirant. Et cette femme, elle souffre. Elle est dans la situation de beaucoup d'hommes et de femmes en Occident et en Afrique aujourd'hui. Des souffrances terribles. On a dépensé son argent pour consulter ou trouver de l'aide extérieure. On a beaucoup entendu les amis, mais rien ne change. Vous avez l'impression toujours d'un mur devant vous. Toujours l'impression que Satan vous tire vers le bas. Mais cet exemple, c'est un exemple qui va vous encourager ce matin. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle va en empirant. Mais la Bible vous dit au verset 27, « Ayant entendu parler de Satan, des wacks, des charlatans, ayant entendu parler de Jésus. » Jésus. Cette femme, elle a tourné le monde, mais personne ne lui avait encore parlé de ce Jésus. Mais maintenant, elle a entendu parler de Jésus. Ah, c'est qui ? C'est une personne. Une personne bien vivante, à qui on peut parler, à qui on peut se confier, et qui se soucie de tes problèmes. Et elle a entendu parler de ce Jésus, elle a entendu parler des miracles qu'il faisait, et cette femme se dit, c'est mon dernier espoir. Si ce n'est pas Jésus, il n'y a plus de solution dans ma vie. Je ne sais plus comment faire. Attention, elle a une perte de sang. Vous savez que dans la loi des Juifs, une femme qui avait ses règles ou qui perdait son sang était impure jusqu'à 7 jours après la fin des règles. Donc une femme qui a sa perte de sang n'a jamais le droit de se trouver dans une zone publique. Tous ceux qui la touchent ou qui la côtoient deviennent impurs. Elle a décidé, cette femme, que pour toucher ce Jésus-là, elle va bousculer les règles de la société. Ce qu'on lui a toujours dit depuis tout petit, ce qu'on nous a peut-être des fois toujours enseigné dans une même dénomination depuis tout petit, c'est comme ça qu'on doit faire et pas comme ça. Elle dit, stop, c'est ma vie qui est en jeu. C'est pas la tienne, c'est la mienne. Ma solution me dit que c'est Jésus. Elle bouscule les traditions. Elle renverse même l'ordre établi en disant, je vais dans la foule. Et quand elle est dans la foule, qu'est-ce qu'elle fait? Vous imaginez, Jésus est entouré. Elle doit prendre les gens à droite, à gauche. Elle se ferait un chemin jusqu'à approcher près de Jésus. Et que nous dit la Bible? Parce qu'elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Cette femme, elle est comme vous ce matin. Vous entendez la Bible. Est-ce que vous croyez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse? Est-ce que vous croyez que c'est de son temps que Jésus peut guérir ou c'est vrai aujourd'hui? Amen. Je ne suis pas pentecôtiste, mais amen. Et c'est pas, ça ne veut pas dire guérir seulement d'une maladie physique. C'est possible. Ça peut guérir de la pauvreté, guérir du chômage, guérir du manque de pardon. Guérir des tensions dans les familles entre les époux, entre les conjoints ou entre les enfants et les parents. Toutes les guérisons sont possibles avec Jésus. Et cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a ouvert sa bouche. Elle a dit, si jamais je le touche, je serai guérie. En clair, elle a proclamé sa bénédiction. Elle a proclamé sa propre guérison. Souvent, les gens se moquent de Madeleine. Mais Madeleine, elle a tout compris. Quand elle dit, les symptômes de la maladie sont là, c'est vrai. Mais Jésus a dit que sur la croix, il a pris mes maladies. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, elle a raison de le proclamer. Si en son temps, Jésus veut le faire, elle recouvrera la vue ici sur terre. C'est possible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais si vous êtes dans une atmosphère où personne ne croit, et vous dites aux gens de prier, que voulez-vous que Jésus fasse? Où est la foi? Vous priez pour des choses sans y croire. Si vous n'y croyez pas, vous ne verrez jamais la réalisation. Cette femme, elle a ouvert sa bouche. Et Jésus commencera à agir dans ta vie le jour où tu vas ouvrir ta bouche. Où tu vas parler. Où tu vas lui dire, je n'en peux plus. Il y a ce problème dans ma vie. Là. Je suis addict aux jeux vidéo. Je suis addict à la pornographie sur Internet. J'ai tout essayé, à l'alcool, au tabac. Je n'y arrive pas. Parce que souvent, on veut faire des efforts par soi-même. Ça marche une semaine, 15 jours, et après vous retombez dedans. Et Satan vous retire plus bas que terre, et vous avez une piètre image de vous-même. Et quel exemple vous allez être pour les autres pour les aider? C'est pas possible. Et je suis passé par là. J'ai lutté contre certains problèmes pendant près de 30 ans. Et je disais à Seigneur, mais c'est pas possible, je suis chrétien, je suis né dedans, je me fais avoir à chaque fois. Et un jour, Jésus m'a dit, mais tu te fais avoir parce que, en fait, tu veux le faire par ta force. Faites comme cette femme. Dites, je n'y arrive plus, je ne peux plus. La Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que je peux faire les choses. Seigneur, j'arrête mes efforts. Je compte sur ta grâce, je veux cesser ce péché-là dans ma vie. Je le refuse. Ce n'est pas bon. Mais par ta grâce et par ton Saint-Esprit que je serai libéré de ce péché-là et je te dis merci parce que c'est déjà fait. À la foi. C'est ça la foi. Et c'est là que vous allez voir des miracles s'opérer dans votre vie. Et cette femme, elle a touché le vêtement de Jésus. Les gens se disent, mais c'est qui cette bonne femme qui commence à... Et puis elle devait être connue en plus, malade depuis 12 ans, les gens l'avaient déjà bien ciblée certainement. C'est la vieille qui nous casse les pieds, celle qui se plaint tout le temps. Eh ben non, elle va arracher son miracle. Elle va toucher le vêtement de Jésus. Quel est ton problème ce matin? Quel est le problème insurmontable que tu n'arrives pas à régler dans ta vie? Quel est le péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser? Jésus te dit ce matin, touche mon vêtement. touche-moi ce matin avec la main de la foi. Touche-moi ce matin comme à cette époque-là. Et la Bible vous dit que 6 mois après, la perte de sang s'est arrêtée petit à petit. C'est ça, non? Non, pardon, on revient, excusez-moi, au texte. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je vous assure, il y a 10 ans en arrière, quand je lisais ce texte, je disais, oui, ça c'est à l'époque de Jésus, Jésus était là. Moi, je vous dis aujourd'hui, ce texte, on peut le vivre ici après ça. On peut le vivre, mais est-ce qu'on croit qu'on peut le vivre encore aujourd'hui? Est-ce qu'on croit que le Jésus qui agissait à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, est-ce qu'on croit que ce Jésus est capable d'agir dans notre vie aujourd'hui, dans notre église, dans notre famille, sur notre lieu de travail? Si on est honnête, beaucoup de gens dans leur cœur disent oui, mais. Le mais, c'est la foi négative qui annule ta foi, tout simplement. C'est la peur. La peur est une foi. C'est une forme de foi, la peur. Une forme de foi négative qui bloque une église, qui bloque une famille, qui bloque ta vie spirituelle et qui bloque tes bénédictions peut-être depuis des années. Moi, je vous encourage vraiment à faire comme cette femme. Elle a galéré 12 ans. Peut-être que toi, c'est que 3 ans. Peut-être que c'est 10 ans. Bon, peut-être c'est 40. Mais c'est pas grave. Pour Dieu, le temps ne compte pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On ne cherche pas des gens parfaits, on cherche des cœurs. Et j'espère que vous êtes comme moi. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, je veux être comme un David. Je veux être un homme selon ton cœur. Je ne suis pas parfait. Il a trompé, il a tué Uri, il a couché avec Bathsheba, mais Dieu l'a toujours relevé et lui a toujours dit, c'est l'homme selon mon cœur. Soyez des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Pas des hommes et des femmes pour plaire au voisin ou à la voisine. Pas des hommes et des femmes qui vivent pour le regard des autres, mais des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu et qui cherchent à plaire à leur Seigneur. Quand vous faites ça, vous êtes rayonnant. Je reprends Louise encore, hein. Moi, je suis désolé, mais je la trouve complètement changée. Je la vois souriante, épanouie, et elle chante, c'était divin. Comme l'a dit le gars qui nous a accueillis, c'est comme si on avait des petites anges, des petites ailes qui poussaient, on était en train de s'envoler. Mais c'était ça. Il y a quelque chose qui passe. Quand tu vis concrètement des choses avec Jésus, il y a des choses qui passent. Tu fais envie. Même les gens non chrétiens ont envie de savoir ce qui se passe. Dans notre école, on a accueilli il y a 15 jours 2 classes de l'école française avec la crise du Mali. Ils ont accepté de venir. Ils ont dormi à l'internat avec nous. On a fait une grande nuit du conte. Donc on a fait un grand trou, on avait mis un tronc d'arbre qu'on a brûlé au cours de la nuit. Nos enfants ont raconté des contes qu'ils avaient écrits, les eux aussi. Puis on avait un conteur professionnel. Et puis nos filles sont un ballet magnifique. Donc ça danse avec le tam. Bon, je ne vous ferai pas la danse, mais c'était vraiment intéressant. Donc on a passé un moment béni. Et j'ai dit, on ne saoule pas les gens avec Dieu. C'est laïque. Par contre, on ne cache pas qui on est. Au moment du repas, ils voulaient commencer à manger. Ils disent, stop, ici on prie. Pardon. Surtout les profs qui sont bien athées et bien laïques, on fait quoi? J'ai dit, on prie. Donc tout le monde s'arrête, je prie. Ah, ils disent, mais c'est sympa quand même. Puis on mange. Et puis nos enfants discutent avec leurs enfants. Donc nous, on se lève à 5h30 le matin. On commence par une lecture de la Bible et on prie ensemble pendant 30 minutes. Et ça conduit toute la journée. Pardon, vous levez à 5h30 le matin pour lire quoi? La Bible. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que Dieu a changé nos vies. Et en fait, nos enfants ont témoigné avec leurs enfants à eux et les enfants se sont posés des questions. Et le soir, on a fait coucher tout le monde dans le dortoir des garçons, mais répartis filles, garçons, bien sûr. Et j'ai une prof de français qui est une grande amie, qui est athée, mais qui se pose plein de questions. Et elle passe à côté du dortoir des filles, puis elle vient me voir à dire, elle me dit, mais j'avais les larmes qui coulaient. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, mais écoute, tes filles, elles étaient à genoux avec la surveillante, elles étaient en train de prier pour nous. Et puis de remercier le Seigneur pour la journée, de remercier le Seigneur pour l'excellent repas qu'on a eu, pour que la fête se soit bien passée, que tout le monde soit en sécurité, puis demander que de la bénédiction de Dieu sur l'école Saint-Exupéry, et sur les professeurs et les élèves. Et vous voyez, c'est ça le quotidien. En fait, ils n'ont pas fait pour être vus, mais ils le vivent tous les jours. Et ils ne changent pas quand on est avec des non-chrétiens. Il y a des chrétiens, quand ils sont dans le milieu chrétien, ouah, tout le monde les voit comme des super-héros. Vous les mettez dans un milieu non-chrétien, on ne sait même plus qu'ils sont chrétiens. Ils ont retourné leur veste à 90 degrés. Non, 180, pardon. Bon, des fois 90, des fois 300, ça dépend. Mais soyez fiers! Quand tu es un roi, tu es fils de roi, tu es quoi? Roi? Pourquoi tu as honte? Quand tu es convaincu, c'est les gens qui sont en face de toi qui se disent, mais ce type-là, pourquoi il est convaincu comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ça change. Et c'est là que vous allez les avoir, les gens. Mais si vous doutez, si vous n'osez jamais aborder le sujet, on fait comme le billard, on passe par la bande pour aller par là-bas et revenir là, vous n'aurez jamais personne. Jamais. Mais si vous êtes franc et droit, vous vivez ce que vous êtes, ça change tout. Et cette femme, elle vous dit qu'à un même instant, la perte de sang, elle s'est arrêtée. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mais ça peut arriver, ça. Proclamez la guérison. Et vous verrez que parfois, ça, Dieu fait grâce et guérit instantanément. Des fois, il faut passer par des médecins. Il ne faut pas rejeter la médecine. Dieu a permis aussi également qu'elle naisse. Mais quand vous êtes en Afrique, je peux vous dire qu'ils ont vachement plus la foi pour la prière de guérison. Hein. Quand tu es au village, il n'y a pas de médicaments et qu'il n'y a pas de centre de santé et que tu as juste ta foi, eh ben, tu es très croyant. Et je peux te dire que la foi, là, tu t'accroches. Hein, et tu proclames que Jésus guérit. Et c'est pour ça qu'on voit davantage de guérisons miraculeuses en Afrique qu'ici. Je suis sûr qu'en Europe, on en avait aussi il y a quelques années en arrière. Quand on n'avait pas le système de protection sociale bien carré, on peut aller se faire rembourser. Ça n'existe pas en Afrique, tout ça. Mais par contre, les gens disent, mais moi, la Bible, elle me dit que quand je suis malade, de demander l'onction d'huile à mes anciens, et puis de demander la prière. Ben, quand tu es en Afrique, tu dis ça, tu dis, ben, hey, les pasteurs, là, vous pouvez venir à la maison, s'il vous plaît. On a quelqu'un de malade. Il voudrait qu'on loigne d'huile et qu'on prie pour lui. Et regardez ce qui se passe encore. Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie de lui-même. Ça veut dire que s'il est sorti une force de Jésus, il y a combien d'années en arrière? Elle ne peut pas sortir aujourd'hui? Oui, mais vous allez me dire, pas de chance, Jésus est parti. C'est vrai, il n'y avait que lui à l'époque qui pouvait faire les miracles. Maintenant, il y a qui? Il y a vous et il y a moi, non? La Bible dit que Jésus habite en nous par son Saint-Esprit, que les choses qu'il faisait, on pourrait en faire de même de plus grandes, qu'on a la capacité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Venez en Afrique, quand vous dites ça, si vous voyez serpent et scorpion, vous allez plutôt hésiter quand même. Hein. Mais c'est fort, cette parole. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que chrétien, mais c'est mon devoir également d'imposer les mains aux malades et de prier avec foi pour eux. C'est ce que Jésus faisait. C'est mon modèle. Il te dit, mais faites-le. Quand tu as quelqu'un à un cancer, commence pas à... Toi, tu as la foi de guérir même pas un mal de tête, tu veux prier pour un cancéreux. C'est pas la peine. Hein. La foi, c'est progressive. Priez d'abord pour des petites maladies, même pour vous-même. Ça m'est déjà arrivé. J'étais dans un endroit, j'ai attrapé la diarrhée. Pas de médicaments, et je suis parti pour le week-end, pas de médicaments et rien. Ben, quand tu es comme ça, j'étais sur mes toilettes, la main sur mon ventre, et je proclamais que non, Jésus avait pris sur ma maladie sur la croix, et que je prenais autorité sur cette maladie, et que je refusais d'être malade pendant le week-end. Je n'ai pas laissé cette petite maladie me gâcher le week-end. Mais je vous promets que ça a bloqué. Je ne sais pas comment, hein. Moi-même, j'avais du mal à y croire après. Mais ça a vraiment bloqué. Et quand vous avez une petite maladie ou un petit résultat dans la foi, Dieu vous dit maintenant, passe un échelon supérieur. C'est comme un escalier. Et petit à petit, vous progressez et vous voyez des résultats et vous pouvez témoigner. Et c'est le témoignage qui va amener les choses à changer. Et vous voyez, Jésus, il a sorti la puissance, sortir de lui. Quand tu imposes les mains, ce n'est pas pour dire je fais de la magie, mais la main, c'est un contact, un transfert. Et Dieu va t'utiliser pour qu'une puissance sorte de toi que tu ne sens pas forcément. C'est la Bible qui te dit, tu as cette puissance-là. Fais-le en mon nom. Pas dans ton nom, dans le nom de Jésus. Et il a vu qu'une puissance est sortie. Et il a commencé à dire à ses disciples, qui m'a touché? Imaginez les disciples, ils commencent à connaître leur type, hein, ce Jésus-là. Ils commencent à nous passer des trucs bizarres. Il y a 300 personnes autour, peut-être 3000. Qui t'a touché? Ben, réfléchis, regarde autour de toi. Ça peut être n'importe qui. Vous pensez que Jésus était fou? Il savait que quelqu'un l'avait touché. Il savait qui l'avait touché. Mais il voulait amener cette personne à faire quoi? À le reconnaître et à le dire. En clair, à témoigner. Et regardez, la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il ne faut pas croire qu'ils étaient dans un petit cabinet, un petit bureau intime. Il y avait peut-être 3000 personnes autour qui ont vu la scène. Et cette femme... dire, je rends gloire à Dieu. Dieu m'a guéri maintenant. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Mais je sais que j'ai toussé chez Jésus et c'est passé quelque chose dans ma vie. Ce matin, cherche à tousser et toucher ce Jésus. Cherche à rentrer en connexion avec lui. Et il va se passer quelque chose dans ta vie. En tout cas, moi, il s'est passé quelque chose dans la mienne. Et beaucoup parmi vous pourraient témoigner de la même chose dans leur vie. Et Jésus lui dit, ma fille, tes longues prières pendant des années t'ont guéri. C'est ça, non? Vous n'avez plus vos Bibles, c'est ça le problème? C'est quoi qui est marqué? Mais ta foi t'a guéri. Pas tes longues prières. Pas de courir les prophètes. En Afrique, les gens aiment ça. Il faut courir les prophètes. On dit que quelqu'un prie et guérit les malades, tout le monde va là-bas. Mais tu es le prophète de ta propre vie. Proclame la parole de Dieu. Tu es malade, impose-toi les mains toi-même. Vous avez cette capacité. Mais on ne le sait pas et on ne l'enseigne pas. Parce qu'on l'a oublié. On a enfermé Jésus dans un cadre. Il ne faut surtout pas qu'il déborde. S'il déborde, ça ne doit pas être chrétien. Ça. Ou alors, c'est pentecôtiste. Maintenant, on aime bien donner des dénominations. Non, on est chrétien et on suit Christ, point barre. Quelle que soit la dénomination, personne n'a la vérité absolue. Ça, c'est clair, net et précis. Mais on sert tous le même Jésus et le même Dieu. Et que lui dit Jésus? Va en paix et sois guéri de ton mal. Pourquoi est-ce qu'elle était guérie? Parce qu'elle a cru que Jésus pouvait la guérir. Elle l'a proclamé. Et je vais vous laisser 5 lettres. P, c'est ce qu'a commencé la femme. Proclame, parle à tes problèmes. Proclame ce que tu veux sur tes problèmes, en étant sûr que c'est la volonté de Dieu par rapport à la Bible. Donc si tu ne lis pas la Bible, tu ne pourras jamais proclamer comme Dieu veut. Il y a des principes. Le deuxième, c'est A. La femme a prié, puis après elle s'est assise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a agi, elle s'est levée, elle a bougé. C'est-à-dire que n'attends pas que les autres fassent pour toi. Ou tu dis, Seigneur, si tu le peux, sauve-moi. Puis tu restes assis et tu fais rien. Non, lève-toi, agis. Elle a pris son courage à deux mains pour lutter contre la foule et aller toucher Jésus. Elle l'a touché. Si elle ne l'avait pas fait, elle serait encore malade. Et la Bible n'en parlerait pas. Deux, qu'est-ce qu'elle dit? R comme reçoit. Elle a reçu sa maladie. Je reconnais que j'étais guéri. En tout cas, vraiment, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. On continue. Donc ça fait 4 lettres. Le dernier, T, témoigne. Une fois que Jésus a fait quelque chose pour toi, mais sois reconnaissant. C'est surnaturel ce que tu viens de vivre. Parle-en. Montre que ton Jésus est vivant, qu'il agit dans la Bible, mais qu'il agit aujourd'hui encore aussi. T pour témoigne. Et les 4 lettres, ça fait part. P-A-R-T. Tu as une part avec Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part avec Jésus? Est-ce que tu l'utilises? Et puis ça veut te dire également, lève-toi et pars. Pars de ton confort. Pars de tes certitudes. Quitte là où tu étais pour aller vers la bénédiction. Et je m'arrête sur un tout petit exemple. Tout le monde parle d'Abraham. Abraham n'avait pas reçu l'appel pour aller en Canaan. C'est pas lui qui l'avait eu. Est-ce que vous savez qui c'est? Ouais, son père, Térak. Dieu avait parlé à Térak avant de parler à Abraham. Et Térak était parti de certainement de la région de l'Irak, avait traversé une bonne partie de l'Asie mineure, et il s'était arrêté à Charan. Et à Charan, il avait dit que, ah, mais c'est pas mal ici. Il y a de l'eau, du bétail, il avait prospéré. Mais Dieu te dit, va là où moi je t'emmène. Je t'emmène pas là où c'est bon, je t'emmène là où c'est excellent. Je t'emmène pas là où tu veux, où ça te plaît. Je t'emmène là où j'ai prévu la place que tu dois occuper. Et Abraham, à la mort de son père, Dieu lui a parlé et lui a dit, va en Canaan. Ton père n'a pas écouté. Va en Canaan et tu seras le père de la promesse. Et par la promesse et par la foi, la Bible dit que nous sommes tous enfants d'Abraham. Tous enfants d'Abraham. Donc je vais te dire ce matin, quel que soit ton niveau social, quelle que soit ta fortune, ton niveau d'études et autres, Jésus t'aime. Il te cherche, il a du prix pour toi. Et il veut faire des miracles au quotidien dans ta vie. Mais pour cela, il a besoin que tu crois que la Bible est vraie. Il a besoin que tu acceptes de dire avec la foi ce que la Bible dit de moi, je le crois. Tu es au chômage, je te dis, tu es un roi. Tu te lèves le matin, tu vas devant ta glace, tu dis merci Seigneur pour la merveilleuse créature que je suis. Merci parce que je suis un roi. Je suis un sacrificateur. Et je sais que tu n'as pas prévu pour ton roi le chômage. Ça paraît fou ce que je vous dis. Au début, moi aussi, je prenais ça un peu bizarrement. Mais ça marche. Et tu appelles ton travail. Seigneur, tu as dit que l'homme, pour manger, doit travailler. Le travail est quelque chose qui est important pour toi. Merci pour le travail que tu as prévu pour moi. Mais vous avez des gens qui passent leur temps à se plaindre, à gémir, à murmurer, à critiquer. Et ils ferment petit à petit les portes du ciel sur leur propre destinée. Donc moi, ce n'est pas pour vous mettre une charge aujourd'hui. C'est vraiment pour vous libérer et vous dire, cherchez Jésus.
Cherchez à le toucher. Mais cherchez à le toucher avec vos frères et vos sœurs. Ils sont ici. Chacun d'entre vous, vous êtes l'image de Jésus sur terre. Si déjà tu ne t'entends pas avec ton frère et avec ta sœur, quel témoignage tu vas donner dehors? Tu vas aller dire quoi? Les gens vous connaissent? Vous êtes dans un village? Vous avez un témoignage depuis des années? On sait que tel frère n'aime pas tel frère. Telle sœur, et ça se sait même au village. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Jésus t'aime, viens dans l'église. Ça va être difficile. Hein. Il faut vraiment vivre ce qu'on dit. Et moi, je vous encourage. Parce que franchement, Dieu a élargi ma tente et mon cœur vraiment en étant là-bas. Et c'est avec beaucoup d'amour que j'ai partagé ça avec vous. Parce qu'on vous aime avec Pascaline. On n'est pas engagé dans une autre église. Hein. On nous l'a reproché même là-bas. Parce que l'école est déjà une église. Mais partout où on peut aller, prêcher la bonne nouvelle, partager la parole avec des frères, avec des sœurs. Pascaline et moi, on se lève avec plaisir et avec joie. Et c'est vraiment de tout mon cœur que je vous donne ce passage. Et retenez ce passage, pars, proclame, agis, reçois et témoigne. Ça, c'est un principe biblique. Ça marche. Je l'ai vécu. Si vous ne me croyez pas, demandez à Louise. Depuis quelques mois, ça a l'air de bouger pas mal dans ce sens-là aussi. Et puis, je suis sûr que vous aussi, vous avez plein de témoignages dans ce sens. Que l'Éternel vous bénisse, que véritablement il puisse continuer à vous utiliser pour travailler puissamment dans ce pays de Gex qui a besoin de chrétiens fidèles qui soient des témoins ici. Ce n'est pas un petit pays, ce pays de Gex, il va continuer à progresser. C'est une région où il y a beaucoup de biens matériels, beaucoup de matérialisme, mais on a besoin aujourd'hui, encore plus qu'avant, du témoignage de Jésus, de ce qu'il peut faire dans ta vie et dans ma vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.
En t'écoutant, en fermant les yeux un petit moment, j'avais presque l'impression que tu étais noir. C'est vrai, tu as une intonation qui est locale, on va dire. Enfin, qui est de ton local à toi, de ton local de tous les jours. Merci pour ce que tu as apporté. Je voulais juste rapporter que, quand même que cette recherche de suivre Dieu et de s'accorder à Dieu et de rechercher son esprit, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre et de partager dans l'Église. Donc c'est important aussi de pouvoir le partager. Demain, il y a des occasions de partager avec les frères et sœurs. Demain, 14h, le Femme Club pour les femmes. 20h30, la chorale inter-Église qui prépare pour le culte de la pastorale. Mardi, les cellules. La cellule qui se réunit après ça est déplacé chez Brian Hélène à 20h30. Celle de Zeg, jeudi, c'est chez Anne-Lise. Et celle de Collonges, chez Pierre et Déborah, mardi. Mercredi, c'est l'après-midi, le club danois, ici. L'après-midi, c'est une activité qui ne concerne pas l'église, mais on vous le dit juste, comme ça, vous savez que les locaux sont occupés aussi, sont prêtés. Mercredi, 19h30, le conseil. Jeudi, la pastorale à 18h, samedi, le groupe de jeunes, et dimanche prochain, notre culte en commun des églises pastorales à 10h à la salle de la Chenaille à Échenevet, avec un pique-nique préparé aussi. Prenez ce temps pour partager avec les frères et sœurs qui vivent aussi dans des églises différentes et avec une foi qui nous interpelle aussi, parce qu'elle n'est pas peut-être tout à fait la même que la nôtre. Je continue avec des annonces qui sont pour un peu plus tard dans le désordre. Samedi 23, explosion de louanges ici, sur la beauté de Dieu. Je crois qu'on a reçu un appel ce matin à venir louer Dieu aussi. Samedi 23, donc ici, c'est 17h. Dimanche 24, nous avions prévu un temps de célébration ici pour le bâtiment. On a parlé de construction d'église, de bâtiment. On l'a repoussé. Ce temps. Pour diverses raisons, venez poser des questions aux anciens si vous avez des questions sur ce sujet, mais aussi pour un planning qui est hyper chargé et un tas de questions à régler encore par rapport à ça. Donc on l'a repoussé, il est juste repoussé, ultérieur, mais repoussé. Hein. Dans la démarche, on y tient énormément pour l'Église. Lundi 25, ici, encore une réunion, pensez-y aussi parce que c'est important, commission travaux et conseils, on veut... Comme on l'a précisé, avancer aussi dans le sens de notre bâtiment et de l'avenir de l'Église aussi. Le 30, club d'enfants, il y a des papillons au fond, prenez les papillons, 30 mars ici, prenez les papillons, et puis inscrivez vos enfants pour le club d'été aussi. Voilà, pour les activités, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, j'aimerais vous donner des nouvelles de malades spécialement. Et je vais parler de, il y a d'autres malades peut-être, mais je vais parler de deux personnes. C'est Nelly, qui n'est pas là depuis plusieurs dimanches, qui a été opérée. Je l'ai eue ce matin et je lui ai dit au téléphone, tu as une très belle voix. Elle m'a dit, j'ai une belle voix, mais je n'ai pas un beau nez. Voilà, donc Nelly a été opérée, ça s'est bien passé. Elle remercie énormément pour les prières. Elle m'a dit, vraiment, j'ai vraiment senti vos prières qui me portaient et qui m'aidaient. Voilà, donc ça c'est une première personne. Et puis je vais quand même vous donner des nouvelles d'une deuxième personne qui n'est pas dans l'église, mais qui est Daniel, mon beau-père, donc le papa de Lydie, qui est en fin de vie, soyons honnêtes, qui ne s'alimente plus depuis bientôt 10 jours et qui est dans une situation difficile en ce moment. Il aimerait vraiment partir et je crois qu'on peut prier vraiment pour qu'il parte et qu'il soit libéré de cette maladie et de ce poids pour lui. Il a vécu pendant 90 ans, il en est reconnaissant. La dernière fois qu'il était hospitalisé, qu'il était malade, c'était en 1964. C'est dire que Dieu l'a béni aussi dans sa santé. Donc on veut prier aussi pour lui et penser, si vous avez du temps, pensez à prier pour lui, pour que Dieu puisse le reprendre dans la paix aussi. J'aimerais encore vous faire deux ou trois petites annonces. Je vais laisser la place à Anne-Laure qui m'avait dit qu'elle avait quelque chose à dire. Tu essaies de faire vite, Anne-Laure, si tu peux. Merci.
Alors, je vais essayer d'être rapide. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas une surprise, puisque j'en ai pas mal parlé ces derniers temps. Mais pour ceux à qui je ne parle pas beaucoup et qui me connaissent un peu moins, peut-être, voici ma petite annonce. Je me marie le 3 août cette année.
Bon, ça, c'est fait, d'accord.
Alors, si vous n'avez pas encore organisé vos vacances, bah, notez bien pour bloquer la date, hein. Et si vous n'avez pas encore rencontré l'heureux élu, qui s'appelle Mathieu, eh ben, il sera là au cul de la pastorale le week-end prochain. Donc, encore une raison pour venir. Et il paraît qu'un des points forts de cette église, c'est l'accueil. Donc, moi, j'aurais besoin de vous. J'aurais besoin que vous m'aidiez un petit peu pour des choses très pratiques pour ce mariage. Et ça, c'est une belle occasion pour vous de mettre en pratique cet accueil que vous savez si bien faire. Donc, j'ai besoin de chacun de vous, chacun des familles de l'église, chacune des familles, pour accueillir des personnes qui viennent de loin pour notre mariage, parce que Mathieu habite loin et il y a plein de gens qui vont venir de loin. Donc, ils ont besoin d'un logement pour dormir le samedi soir, même certains déjà le vendredi soir et le samedi soir. Donc, si chaque famille peut accueillir 1, 2, 3, 4 personnes chez eux, ce serait absolument super. Alors, venez me voir assez vite, soit à la fin du culte, soit envoyez-moi des mails, téléphonez-moi pour me dire si c'est possible pour vous. J'essaierai de vous relancer un peu. Mais voilà, ce serait chouette que plein de gens puissent trouver de l'accueil ici et puissent trouver un toit pour dormir, juste pour la nuit. Merci.
Voilà, j'ai un peu perdu ma liste. Juste encore trois petites infos encore avant de conclure. Déborah a remis en ordre la liste de prières pour les jeunes, pour la jeunesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, je veux dire abonné, ce n'est pas un abonnement, mais si vous n'êtes pas encore relié à cette liste, vous pouvez le demander à Déborah qui vous la fera volontiers passer. Et puis deux autres infos encore de Briand et Hélène. Plusieurs personnes ont demandé le journal La Fenêtre 1040. Hélène en aura la sortie, elle les tient à dispo. Et si vous voulez faire des dons pour la Syrie, aussi, plusieurs personnes ont demandé de faire des dons. Si elle peut faire des dons pour la Syrie, vous allez vers Briand et vous dira aussi, on peut faire des chèques au nom de Vive Mission qui fera suivre, simplement. Voilà, je vous invite à vous lever. Je vous livre encore un petit verset. C'est le début de l'épître aux Galates et où Paul, bien sûr, parle à l'église des Galates. Mais je crois qu'on peut prendre vraiment ce passage pour nous. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, le Dieu et Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux assemblées de Galatie, donc, grâce et paix, à vous, de la part de Dieu le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, auquel soit à jamais la gloire au siècle des siècles. Amen.